Les séminaires du Collège de France.
Donc très rapidement, Simon Gascoin est chercheur au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le CES Bio à Toulouse. Donc on le remercie d'être venu depuis Toulouse spécifiquement pour faire cet exposé aujourd'hui. Donc c'est vraiment un spécialiste de l'observation spatiale avec des objectifs plutôt en hydrologie. C'est vraiment un spécialiste de l'hydrologie. Et là, il va nous faire un exposé en particulier sur comment l'observation spatiale permet de quantifier la neige et de quantifier les différents processus liés au changement climatique dans les zones de montagne. Donc c'est un chercheur, en discutant tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on avait plein de points en commun. On a fait nos premières études au même endroit, on s'intéresse beaucoup au spatial. Et en particulier, dans ce cadre-là, moi dans le passé et puis lui aujourd'hui, en fait, il pilote un groupe du CNES, justement pour essayer de conseiller le CNES sur qu'est-ce qui doit être fait sur l'observation spatiale des surfaces. Donc merci Simon, une petite heure et puis après on prendra les questions pour nos deux exposés.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler du manteau neigeux et de l'apport des observations spatiales pour le caractériser. Vous savez que le manteau neigeux, donc, c'est un élément de la cryosphère. Donc c'est l'élément de la cryosphère qui est le plus proche de nous. Donc, alors vous, Parisiens, sans doute que vous le connaissez lorsque ça cause des embouteillages à Paris. Mais par exemple, nous, Toulousains, ce manteau neigeux-là, par exemple, ça c'est une photo que j'ai prise en Ariège, c'est un élément fondamental de nos ressources en eau qui est utilisé à de multiples reprises, que ce soit pour produire de l'hydroélectricité, mais également pour approvisionner notre eau potable, et puis également pour refroidir la centrale nucléaire de Golfech qui est située sur la Garonne. Donc en fait, moi aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'un élément de la cryosphère qui est très proche de notre vie quotidienne. Et par rapport aux exposés précédents, c'est vrai que c'est un peu en décalage parce que je ne vais pas parler tellement de l'échelle planétaire, mais plutôt d'une échelle plutôt locale. On a eu une vision assez générale avec l'exposé de Gerhard Kriener, que je vous invite à regarder, qui parlait de tous les éléments de la cryosphère, les calottes polaires, etc. Donc là, aujourd'hui, je me focalise seulement sur le manteau neigeux. Et donc, pour ça, je vais avoir besoin d'avoir une vision assez précise, assez locale. Et on va regarder surtout le manteau neigeux dans nos zones de montagne. Et donc, je vais me focaliser sur l'apport des satellites. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, en fait, pour étudier un peu l'évolution du manteau neigeux dans nos montagnes. Donc ça va m'amener en fait à vous montrer des résultats de recherche assez récents. Je vais rentrer un peu dans le détail. J'ai envie de vous montrer concrètement ce qu'on fait dans nos laboratoires pour répondre un peu à ces problématiques. Voilà, mais avant ça, comme je sais que François-Marie est un physicien, j'avais envie de faire quelques petits rappels un peu théoriques sur les propriétés physiques du manteau neigeux. Alors, c'est important de comprendre un peu ces propriétés physiques pour comprendre le rôle que le manteau neigeux joue dans nos écosystèmes. Donc, c'est un matériau très complexe, un matériau poreux, triphasique, qui vraiment a des propriétés physiques qui le distinguent des autres surfaces naturelles. Alors, ici, vous avez une image, en fait, qui est un cube de neige fraîche qui a été imagé par tomographie à rayon X. La première chose qu'on voit, donc, c'est formé de grains de glace, hein, le manteau neigeux. Et sa propriété physique la plus évidente, peut-être, c'est le fait qu'il réfléchit la lumière du soleil. Donc, on en a parlé plusieurs fois dans ces cours. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Donc, la neige a un albédo très élevé. Et en fait, si on y réfléchit une seconde, c'est assez paradoxal parce que la neige, en fait, est formée de glace et la glace est transparente. Et si vous faites traverser un rayon de lumière à travers la glace, en fait, il traverse quasiment sans absorption. Pour comprendre le fait que la neige est blanche, il faut bien avoir en tête qu'il y a énormément de cristaux de glace et donc la lumière, lorsqu'elle traverse le manteau neigeux, est réfléchie très faiblement, mais tellement de fois que finalement, elle finit par ressortir du manteau neigeux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit la neige blanche. En fait, c'est comme un diffuseur de lumière plus que vraiment un miroir. Voilà, donc ça, c'est la première propriété physique fondamentale. La deuxième, c'est que la neige est un isolant naturel très fort. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle la neige le manteau neigeux. Cette isolation naturelle, elle est liée au fait que la neige a une conductivité thermique très faible. Et donc ça, c'est lié à la présence d'air en fait, entre les grains de glace qui forment le manteau neigeux. Et enfin, troisième propriété fondamentale, c'est le fait que la neige en fait, est un stock d'eau. Et alors pourquoi en fait, c'est un stock d'eau ? C'est parce que la glace a une chaleur latente donc, qui permet de passer de l'état solide à l'état liquide qui est très élevé. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour faire ce changement de phase. Et donc ça crée un décalage entre le moment où l'énergie arrive, l'énergie solaire, l'été arrive. En fait, entre ce moment où l'énergie arrive et le moment où la fonte a lieu, il y a un décalage lié à cette chaleur latente qui est élevée. Voilà, donc c'est pour trois propriétés. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi elles ont une importance dans le fonctionnement des écosystèmes de montagne. Alors, tout d'abord, le fait que la neige réfléchisse la lumière du soleil, c'est très important pour les plantes qui sont sous le manteau neigeux dans nos montagnes. Vous avez ici une illustration du flux de lumière solaire qui est mesuré donc, au-dessus de la neige avec la courbe noire. Et puis en dessous, la neige. Sous la neige, voilà, il y a eu un radiomètre qui a été installé. Et vous avez ici en jaune la quantité de photons, le flux de photons qui arrive. Donc voilà, on voit que la lumière solaire suit un cycle, hein, le rayonnement solaire en fonction des jours. Et puis ici, vous avez en bleu la hauteur de neige. Et donc on remarque que la quantité de lumière qui arrive au sol au fur et à mesure du temps augmente en lien avec la diminution de la hauteur de neige. Et ici, en orange, vous avez un seuil qui est le seuil de déclenchement de la mise en place de la photosynthèse dans une espèce de lichen qui est située au sol. Et donc, à un moment donné, quand le flux de photons dépasse un certain seuil, la photosynthèse se met en place et donc la croissance de la végétation démarre. Il faut savoir que toutes les plantes, en fait, sont dotées de photorécepteurs qui s'activent à partir d'une certaine quantité de lumière. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, donc quelques jours avant que la neige disparaisse, que la croissance se met en place. Deuxième propriété dont je vous ai parlé, c'est le fait que le manteau neigeux est un isolant thermique très puissant. Donc ça, on le sait parce qu'il y a des mammifères en fait qui profitent de cette propriété pour se protéger des températures très basses qu'il peut y avoir en hiver en montagne ou même dans les zones arctiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder donc le profil de température dans un manteau neigeux. Si on mesurait ici avec un thermomètre à différentes profondeurs, on aurait typiquement dans les Alpes, par exemple, ce type de profil, donc une température assez basse en surface et en descendant jusqu'au sol, en fait, une température nulle. Voilà. Et donc, cet effet du manteau neigeux qui maintient en fait un sol non gelé, qui est à 0 degré, c'est facile de s'en rendre compte en faisant des expériences. Ça, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis, où pendant deux années, en hiver, en fait, ils ont retiré la neige du sol. Et donc, ici, vous avez la température du sol à très faible profondeur qui a été mesurée. Et on s'aperçoit que lorsque la neige a été retirée, eh bien, la température descend sous 0 degré. Tandis que quand la neige est restée, on n'a rien touché, finalement la température reste proche de 0 degré. Voilà, troisième propriété, donc c'est le fait que la neige est une réserve d'eau. Donc ça, c'est très important également dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est ce qu'on voit ici à travers ces deux graphiques que je vais vous détailler. Vous avez ici l'évolution de la hauteur de neige au cours au cours d'un hiver, et puis ici vous avez l'été, donc la hauteur de neige diminue. Et en fait, vous avez également ici la température de l'air, donc avec en jaune la courbe de la température de l'air qui montre le réchauffement estival. Et puis donc la température du sol en noir, donc ça c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, 0 degré en hiver et ensuite une augmentation. Et en bleu, enfin, vous avez l'humidité du sol. Et donc en fait, vous voyez que l'humidité du sol augmente fortement au printemps, au moment où la neige fond, et reste assez élevée tout au cours de la moitié de la saison. Et donc ça signifie qu'il y a donc une réserve d'eau disponible pour la croissance des plantes à partir de la fonte durant la saison estivale, où c'est vraiment au moment où les plantes ont plus besoin d'eau pour pousser. Donc voilà, donc au final, le manteau neigeux a plusieurs façons en fait module le fonctionnement des écosystèmes, en particulier de la végétation de montagne. Et une façon en fait de résumer un peu le rôle de la neige dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est vraiment de regarder la date de déneigement. La date de déneigement, c'est une variable assez clé en fait pour comprendre tout ça. Vous avez par exemple ici donc, une illustration, un graphique pardon, qui vous montre des mesures de biomasse sèche dans des pelouses de milieux alpins. Donc, c'est-à-dire en fait la productivité de la végétation, et à partir de la date de fonte, donc la fin de l'enneigement ici est marquée, et vous remarquez en fait que cette date de fonte conditionne vraiment très fortement la pente de la croissance en fait, donc la biomasse sèche qu'on ramasse, et donc ça signifie donc la croissance de la végétation dans ces milieux-là. Donc c'est vraiment cette date de déneigement moi que je vais ensuite vous décrire et comment en fait par satellite on peut l'étudier. Voilà, mais évidemment, donc la question dans le cadre de ce séminaire, c'est quel est le rôle en fait du changement climatique, quel va être l'impact du changement climatique sur ce manteau neigeux. Donc, je vous apprends rien en vous disant que le manteau neigeux est très sensible à la hausse de la température. Ici, vous avez l'évolution de la température de l'air en Europe. Donc, l'Europe, c'est le continent où la température de l'air augmente le plus vite. Hein, donc, le réchauffement est le plus marqué. Vous avez dû voir des courbes comme ça très fréquemment au cours de ce séminaire, mais vous savez donc sans doute que le réchauffement en particulier est très marqué depuis les années 80. Ici en Europe, on a gagné environ 1,5 degrés. Et ensuite, après, donc il y a les projections. Donc non seulement on a envie de connaître l'impact du changement climatique sur le manteau neigeux pendant la période passée, mais également un peu d'essayer d'anticiper ce que ça peut avoir comme effet ces différentes projections sur les écosystèmes de montagne. Alors, pour savoir quel a été l'impact du changement climatique par le passé sur le manteau neigeux, on dispose d'observations très classiques de hauteur de neige dans des stations ponctuelles, notamment il y en a une dans le massif de la Chartreuse qui est maintenue par Météo France depuis de nombreuses années, depuis les années 60. C'est la station du Col de Porte. Donc c'est une station vraiment emblématique où de nombreux paramètres du manteau neigeux sont mesurés, mais notamment la hauteur de neige. Et donc si on regarde les chroniques de hauteur de neige sur ce site, voilà ce qu'on observe. Donc ce sont des hauteurs de neige moyennes entre le mois de décembre et la fin du mois d'avril. Donc ça représente un peu l'enneigement moyen par année. Et donc, vous remarquez que une forte variabilité, déjà, peut-être, on peut noter ça, et puis quand même une baisse assez marquée. Vous voyez ici la moyenne glissante sur 15 ans, qui nous donne en fait une diminution de l'ordre de 40 cm sur ce site-là, entre les deux périodes qui sont le milieu des années 70 et la période plus récente. Peut-être une autre chose à remarquer, c'est qu'on a l'impression de voir un peu une rupture ici quand même, au milieu des années 80, avec ici un régime bien plus bas que le régime avant cette date, un peu des milieux des années 80. Donc à garder en tête pour la suite de l'exposé. Alors des stations comme ça, en Europe, on en a beaucoup quand même. Voici la carte qui représente les points où on mesure la hauteur de neige dans les Alpes. Donc il y en a plusieurs centaines. Mais en réalité, si on veut vraiment étudier le changement climatique, on a besoin de stations de mesure qui ont fonctionné pendant plusieurs dizaines d'années, qui n'ont pas eu de rupture, qui n'ont pas été déplacées, etc. Donc après filtrage, en fait, on se retrouve avec cette carte-là, les points violets. Donc il y en a beaucoup moins. Ici, vous avez un histogramme en fait qui représente la différence entre le comptage des stations disponibles et celles qui sont vraiment utilisées pour les analyses de tendance, donc entre le orange et le violet. Par exemple, en France, il n'en reste plus que 45 des stations vraiment utiles pour étudier l'effet du changement climatique sur le manteau neigeux. Et point intéressant aussi, c'est que leur altitude est quasiment toujours située sous 2000 mètres. Donc ça, c'est quand même problématique pour étudier les écosystèmes de montagne qui sont quand même largement situés au-dessus de cette altitude-là. Voilà, si typiquement, en fait, l'étage subalpin et l'étage alpin, où on trouve ces pelouses alpines que je vous ai montrées en photo précédemment, elles sont situées autour de 2500 mètres. Voilà, donc j'en viens finalement un peu au cœur de mon exposé. Donc voilà, ça c'est la zone en fait qu'on observe avec les stations météo. Tout ce qui est au-dessus, on le manque un peu. Donc la clé, est-ce que ça pourrait pas être les images satellites? Finalement, les images satellites, François-Marie l'a montré, observe un peu tout, partout, tout le temps. Donc notamment les hautes altitudes. Et donc c'est un peu l'objet de vous montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir des images satellites sur l'évolution du manteau neigeux. Alors, pour ça, petit historique, en fait, sur l'observation de la neige depuis l'espace, Alors, ça a été mentionné par François-Marie juste avant, le tout premier satellite météorologique, donc tout premier satellite dédié à l'observation de la Terre pour des applications liées à l'environnement, c'est TIROS 1, lancé en 1960. Et en fait, ce que je trouve amusant, c'est que la toute première image donc, du tout premier satellite d'observation de notre climat, en fait, contient le manteau neigeux des Alpes. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reconnu ici, mais si on prend par exemple une image satellite prise exactement, vous voyez, entre 1960, donc 80 ans plus tard, 60 ans plus tard, pardon, on a, ici on reconnaît bien les Alpes, et la vision qu'on a vue avec TIROS 1 en 1960, tout d'un coup paraît plus réelle. Donc ça, c'est intéressant, c'est anecdotique, en fait, parce qu'on n'en a pas vraiment tiré d'informations géophysiques. C'était vraiment une photographie, une image. Par contre, les agences météorologiques ont vite réalisé le potentiel des satellites. Et dès 1966, en fait, on a les premières cartes d'enneigement. Donc là, je ne parle pas d'image, je parle bien de carte, c'est-à-dire une information exploitable. Ces cartes-là ont été produites de façon opérationnelle depuis les années 66 jusqu'à aujourd'hui, de façon hebdomadaire par notamment l'agence météorologique américaine. Donc vous avez par exemple une carte comme ça issue d'images satellites. Donc celle-là, elle est faite à la main à partir d'un opérateur qui analyse des photos satellites et qui trace donc l'étendue du manteau neigeux. Alors là, on est à l'échelle hémisphérique. On voit l'hémisphère nord. Ces cartes-là ont été produites, donc je vous dis, depuis les années 70. On a pu les exploiter pour étudier un peu les tendances sur les tendances sur l'enneigement donc depuis ces années-là. Donc en fait, la cartographie du manteau neigeux, c'est vraiment la variable la plus ancienne dont on dispose pour étudier l'effet du changement climatique. C'est depuis les années 70, je vous dis, qu'on suit cette variable-là, et donc on peut en tirer des tendances. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces tendances-là ? Vous avez ici en couleur le changement en fait en nombre de jours par an où la surface est enneigée. Donc vous voyez des zones ici très rouges, donc où la durée d'enneigement est de plus en plus faible au cours c'est depuis 1972 jusqu'à 2024. Et en bleu quand même certaines zones où la durée d'enneigement a un peu augmenté, notamment en Amérique du Nord. Et là ici ce graphique montre la surface enneigée, donc sur tout cet hémisphère, et on voit donc une baisse de l'ordre de quelques 3 millions de kilomètres carrés en fait depuis les années 70. Donc ça, c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça répond pas vraiment bien à ma question de base sur les écosystèmes dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Vous voyez ici, on a les Pyrénées, c'est un pixel. Les Alpes, 2-3 pixels. Difficile d'en tirer quoi que ce soit de pertinent pour étudier les prairies d'altitude. Et donc, c'est là où on va regarder en fait d'autres satellites. Et les satellites, on en a une pléthore, on en a une quantité invraisemblable. C'est ce que nous a montré François-Marie. Ça, notamment, ce sont juste les satellites européens. Et donc, il y en a énormément. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du satellite Sentinel-2, donc qui a été également présenté juste avant par François-Marie, qui est probablement, à l'heure actuelle, le satellite qui est le plus utilisé dans notre communauté, un satellite européen. Que nous envient même les Américains, qui produit des images de la surface terrestre à haute résolution tous les 5 jours. Donc le type d'image qu'on a avec Sentinel-2, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus précis que la vision à l'échelle de l'hémisphère nord que je vous ai montré. Donc ici, vous avez la cordillère des Andes en face de l'océan Pacifique. Au Chili. Donc on voit très bien la neige. Donc parfait, on peut s'en servir pour étudier le manteau neigeux. Oui, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que des fois, il y a des nuages quand même dans les images. Ça, c'est une image optique, donc on fait partie de la famille des capteurs passifs, donc qui regardent la lumière du soleil réfléchie par la surface. Et donc, dans le domaine visible, les nuages comme la neige sont blancs. Et donc, c'est pas évident de distinguer forcément la neige des nuages. Là, dans ce cas-là, on le voit très, très bien, mais parfois, il peut y avoir une confusion. Alors pour ça, j'ai besoin de revenir un peu pour comprendre comment on va faire pour extraire en fait la surface enneigée d'une image satellite. J'ai besoin de faire un petit rappel aussi de physique un peu sur le manteau neigeux. Donc il faut savoir que la réflectance de la neige est très particulière en fait. Donc dans le domaine visible, donc vous le savez, la neige est blanche. Donc ça a été très bien expliqué juste avant. On a ici le domaine des longueurs d'onde visibles entre 0,4 et 0,8 micromètres. La réflectance, le pourcentage de lumière réfléchie ici est très élevé, autour de 90%. Donc ça signifie que la neige est bien blanche. C'est le cas également ici du nuage. Ici, vous avez différents types de neige, pardon. Et ici, un spectre moyen d'un nuage. En revanche, si on se place dans le domaine du moyen infrarouge, donc ici autour de 1,5, 1,6 micromètres, en fait, on s'aperçoit que la neige est très sombre. Donc la neige nous paraît très noire, en fait, si nos yeux étaient capables de voir dans cette gamme de longueur d'onde. Tandis que le nuage, lui, reste assez brillant. Et donc, on va pouvoir distinguer neige et nuage, en fait, à partir de cette propriété fondamentale de la réflectance de ces deux objets. Comme cela vous avait été expliqué précédemment, les satellites disposent de bandes spectrales dans différentes longueurs d'onde, et la plupart des satellites disposent de bandes spectrales dans le visible, et certains ont également des bandes spectrales dans le moyen infrarouge, et c'est ce qui va nous permettre de distinguer la neige des nuages dans les images satellites. Alors par exemple, donc ici je reviens à mon image de la cordillère des Andes. En fait, c'était une image classique RGB, donc rouge, vert, bleu, où j'ai mis à la place du canal rouge la bande spectrale rouge, à la place de la bande du canal vert la bande spectrale verte, etc. Mais si on remplace la bande spectrale, le canal de l'image RGB rouge par une bande spectrale différente, qu'on enlève la bande spectrale rouge et qu'on met la bande spectrale moyenne infrarouge, voilà comment on verrait en fait l'image satellite. Donc pourquoi tout d'un coup la neige apparaît bleue? Parce que comme en fait la neige est très sombre dans le moyen infrarouge, en fait on retire tout le rouge de l'image. Donc il ne reste plus que le vert et le bleu, ça fait une couleur un peu cyan. Donc voilà, on a la base en fait de l'algorithme qui permet de distinguer neige et nuage de façon efficace. Et donc après on peut transformer cette image en une carte, une information où on aura neige et nuages. Et on peut traiter comme ça assez facilement des centaines, des dizaines, des milliers d'images et ainsi produire des séries d'observations du manteau neigeux à haute résolution. Donc vous avez ici par exemple les Pyrénées. Depuis le début des années 2000, on a traité donc des images satellites et on a obtenu des cartes d'enneigement. On a filtré les nuages et voilà en fait l'évolution de la surface enneigée dans les Pyrénées au patin journalier depuis le début du millénaire. Voilà, donc très bien, vous allez me dire que ça ne répond pas vraiment à votre question parce qu'ici, on démarre dans les années 2000. Or, pour étudier le changement climatique, on a besoin quand même d'une période un peu plus longue. Si on regarde ma courbe là d'évolution de la température, on se situe vraiment dans cette partie-là. Et notamment, ce qui est dommage, c'est qu'on rate un peu le début des années 90-80 où on a vraiment ce démarrage en fait, de la hausse de la température en Europe qui sera intéressant d'étudier. Donc en fait, nous, on veut remonter sur une période plus longue, ici, qui démarrait dans les années 80. Donc c'est en fait là un projet de recherche qu'on a mené récemment, dont je vais vous parler, qui a permis de remonter un peu dans le temps à partir des images satellites. Alors, on dispose d'observations satellitaires, je vous ai dit, depuis les années 60, mais on a des observations à haute résolution grâce à deux programmes notamment, qui sont le programme Landsat, qui a démarré dans les années 70, et le programme SPOT, de l'Agence spatiale française, qui est vraiment un programme qui a été un grand succès. Et donc, c'est une série de satellites, en fait, le programme SPOT, il y en a eu 5, qui a observé la Terre donc à une résolution de 20 mètres environ. Et il y a eu plus de 15 millions d'images qui ont été acquises dans le cadre de ce programme-là. Et donc maintenant, les images sont librement disponibles. Et après, il y a la série Sentinel-2 qui démarre à partir de 2015. Alors, un petit souci avec les images SPOT, vous en avez une ici, c'est qu'en fait, de SPOT 1 à 3, on n'a pas la bande du moyen infrarouge, cette fameuse bande qui nous permet de distinguer la neige des nuages. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer ma méthode de distinction efficace, il va falloir trouver une parade. Alors quand on prend une image satellite SPOT par exemple, on voit par exemple ici c'est dans les Pyrénées, la neige et les nuages. Je pense que vos yeux arrivent à distinguer quand même ce qui est une surface enneigée de ce qui est un nuage. Donc si nos yeux peuvent le détecter, probablement qu'une machine peut le faire aussi. Et ça, effectivement, oui, c'est le travail de l'intelligence artificielle. Et donc, on a utilisé un réseau de neurones pour distinguer la neige des nuages dans ces images où on n'avait pas la bande de moyenne infrarouge. Donc un réseau de neurones, en fait, c'est un programme informatique qui fonctionne avec des opérations successives et qui, en fait, transforme ce réseau de neurones-là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un UNET, qui va avoir une partie qui sert à encoder l'information et une partie qui sert à la décoder et à produire, donc à partir d'une image, une carte de neige et de nuages. Donc ce réseau de neurones, en fait, à la base, il a été développé pour l'imagerie médicale. Mais l'exemple classique qu'on utilise toujours, c'est le petit chat. Donc vous avez une photo de petit chat, et à la fin, vous voulez une carte de là où il y a un chat et là où il n'y a pas de chat. Donc la première partie du réseau de neurones, ici, va servir à encoder l'information et à dire il y a un chat quelque part. Et ensuite, ce décodage, ici, va servir à placer les pixels vraiment où on a un chat ou non. Et donc, c'est cette méthode-là qu'on a utilisée pour nos cartes satellites SPOT, nos images satellites SPOT. Le seul problème, c'est que pour qu'un réseau de neurones fonctionne, il faut l'entraîner. Et donc, pour l'entraîner, il faut lui fournir des images et lui donner une référence pour qu'il puisse apprendre, en fait, voilà, à quoi ressemble un chat. Et donc, malheureusement, avec nos images SPOT, on n'a pas de référence. Donc, c'est là où on a dû faire preuve un peu d'imagination. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des images Sentinel-2, donc avec la bande moyenne infrarouge, de très bonne qualité, et on va les dégrader. Donc, vous avez ici une image Sentinel-2, on va la spotifier. Donc, on va la transformer en une image sans... on va retirer son canal moyenne infrarouge. Également, on va la dégrader. On va faire de l'ancien avec du neuf, si vous voulez. Par contre, à partir de cette image Sentinel-2, on va générer notre carte d'enneigement, elle, en utilisant toute l'information dont on dispose. Et ensuite, on va dire au réseau de neurones, voici l'image pseudo-spot et voici la carte que tu dois obtenir à la fin. Débrouille-toi pour apprendre, en fait, les paramètres de ton réseau. Donc, ça a bien fonctionné. Donc on est parvenu comme ça à calibrer ce réseau de neurones et à obtenir une méthode pour extraire la neige et les nuages de centaines de milliers d'images qui étaient un peu inexploitées. Donc voilà, par exemple, le résultat, vous voyez le réseau de neurones sur cette image que je vous avais présentée tout à l'heure, parvient assez bien à distinguer donc les nuages en vert ici de la neige en violet. Et donc, in fine, on a bien une carte qu'on peut exploiter. Donc voilà, moralité, j'ai obtenu pour une période suffisamment longue, puisque le programme SPOT et puis le programme Landsat, on utilise aussi les images Landsat, démarre au milieu des années 80. Donc on va pouvoir étudier vraiment la période 80 à 2024 dans des zones de montagne donc, où on a besoin d'une résolution spatiale assez fine. Et on va pouvoir produire donc, des cartes de date de déneigement. Je vous rappelle que c'est vraiment une variable assez clé dans le fonctionnement des écosystèmes de montagne. On va pouvoir produire ce genre de carte pour chaque année depuis 86, la date de déneigement par pixel de 20 mètres pour les Alpes et les Pyrénées. Donc vous en avez par exemple ici celle de 2020, produite à partir de données Sentinel-2. Et vous avez ici un zoom dans la zone du Mercantour où vous avez une idée un peu de la finesse des cartes qu'on peut produire. Alors, qu'est-ce qu'on observe en fait sur cette date de déneigement en termes de tendance, donc depuis les années 80? Donc voilà les résultats des travaux qui ont été réalisés par Zachary Barraud-Dumont, un doctorant que j'ai encadré récemment. Donc dans les Pyrénées, donc on a regroupé les analyses par sous-massifs. Donc vous avez ici des polygones noirs qui correspondent à des sous-massifs, par exemple l'Ariège, le Luchonnais, etc. Et puis on a également séparé l'analyse par tranche d'altitude. En fait, on a tellement de pixels, on a des millions de pixels, on peut vraiment regarder finement par tranche d'altitude les tendances. Donc vous avez ici en couleur les tendances en termes de date de déneigement par décennie, en nombre de jours par décennie. Donc vous remarquez que c'est quand même plutôt rouge, donc ça signifie que depuis 1986, on a une date d'enneigement qui est de plus en plus précoce. Et cette avancée, la date de déneigement, elle est à peu près générale à toutes les tranches d'altitude. Elle est de l'ordre de 5 jours. Le chiffre à retenir, c'est 5 jours par décennie, donc de fonte plus précoce. Les points noirs ici marquent les régions où cette tendance est vraiment significative, c'est-à-dire qu'on a une bonne confiance statistique dans la tendance. Donc on a quand même des massifs où la tendance n'est pas significative, c'est normal, il y a une variabilité aussi très forte dans ces régions-là, qui fait qu'on n'a pas toujours des tendances très claires. Alors maintenant, si on regarde dans les Alpes, En fait, on a des tendances plus marquées et plus statistiquement significatives. Donc, vous voyez, donc de la tranche d'altitude 1500 mètres à cette fois, on peut monter bien plus haut, hein, jusqu'à 3600 mètres pour les massifs du Mont Blanc, par exemple. Et donc, on a encore une fois des cartes plutôt rouges, hein, donc une tendance à la baisse, donc une avancée de la date de déneigement. Et notamment qui est assez marquée donc dans cette tranche d'altitude 2100 mètres, hein, exactement celle qui nous intéresse finalement. Et puis, autre chose à remarquer, voilà, assez marquée aussi à très haute altitude. Et beaucoup de zones statistiquement significatives. Donc, là, j'ai vraiment envie juste de prendre une petite pause et de dire finalement, enfin, moi, je suis assez stupéfait quand je vois ça parce que on a traité vraiment des centaines de milliers d'images satellites sans avoir absolument aucune idée de ce qu'on allait trouver. Et en fait, on obtient ces cartes-là, c'est très robuste. On a 5 jours de fonte par décennie qui ressortent en fait de ces traitements. Ça correspond bien aussi à ce qu'on observe sur les stations de mesure de hauteur de neige. Je trouve que c'est assez fabuleux de voir comment, en fait, à partir des images satellites qui n'ont pas du tout été prévues pour ça, on arrive à apprendre des choses sur le changement climatique. Alors, maintenant, voyons un peu l'impact de tout ça sur les écosystèmes, parce que ça fait partie quand même de l'objet de mon exposé, c'est de parler un peu des impacts. Donc, vous allez me dire 5 jours d'enneigement en moins, donc une date de déneigement qui s'avance de 5 jours par décennie, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Néanmoins, si on se place dans cette tranche-là, cet étage un peu alpin, les pelouses alpines, ou l'étage alpin ou subalpin, la période de croissance, en fait, c'est l'ordre de 2,5 mois, donc 2 mois et demi. Donc, 5 jours pendant 3 décennies, ça fait 15 jours, c'est la moitié d'un mois. C'est beaucoup sur 2 mois et demi. Donc, potentiellement, ça peut quand même avoir un impact assez significatif. Et effectivement, c'est ce dont on s'est rendu compte, hein, donc, en travaillant avec des collègues du laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, que ça avait eu un impact assez significatif sur la végétation d'altitude. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne la végétation dans les zones de montagne, il faut avoir en tête que la productivité, la croissance de la végétation est liée à ce qu'on appelle le cumul de degrés jour. Donc, à partir du moment où la neige fond, la végétation va croître, et elle va croître d'autant plus que, au fur et à mesure du temps, les degrés cumulés sont élevés. Donc, pareil, c'est ce qui est représenté ici, la température, la courbe de température ici en noir, au cours d'une saison. Ici, vous avez la date de fonte en pointillé. Donc, à partir du moment où la fonte a lieu, la température ici, vous voyez, augmente à partir du mois de juin. On a donc le cumul de température qui est l'intégrale sous la courbe noire. Ici, c'est ce qui s'appelle le GDD, 757 degrés dans ce cas théorique. Maintenant, si on applique le réchauffement climatique de 1,5 degré, hein, ce qu'on a vu juste avant, en Europe, en moyenne, on remonte la courbe noire ici, au niveau de la courbe grise, et donc l'intégrale sous la courbe augmente. Et donc ici, dans ce cas, elle augmente de 17%. Donc on a augmenté le GDD de 17%. Maintenant, on applique également le fait que la date de fonte s'est avancée donc de 15 jours, hein, en 30 ans. Et donc, on augmente également la surface de la courbe, la surface sous la courbe grise, ici le polygone bleu ciel, c'est également 17%. D'accord ? Donc, en fait, le changement climatique augmente la valeur du GDD du fait de la hausse de la température et du fait du déneigement plus précoce. Donc ça, c'est une zone, un versant, on va dire, peu enneigé, qui pourrait se situer dans cet étage-là, subalpin. Maintenant, si on se place dans une zone qu'on pourrait appeler une combe à neige, par exemple, c'est-à-dire un secteur où la neige fond bien plus tard dans l'année, donc typiquement, par exemple, ici, à la fin du mois de juillet, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, du point de vue théorique, en fait, donc on a le même réchauffement climatique, on se situe à la même altitude, hein, on serait à la même tranche d'altitude, mais dans une zone juste plus enneigée. Et donc, on augmente donc 1,5 degré de la même façon. Donc, on a ici une augmentation de plus 16%. Par contre, le fait de retirer 15 jours à ce moment-là fait que l'intégrale sous la courbe augmente de 30%. Donc vous voyez qu'en fait, la date de déneigement a un impact plus fort que la hausse de la température, même si les deux sont liés, hein, bien évidemment. Mais dans cette façon schématique de présenter les choses, la date de déneigement augmente le GDD bien plus significativement. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on observe en étudiant la végétation par satellite. Ça a été prouvé donc, avec des collègues du laboratoire d'écologie alpine. Actuellement, en fait, dans les Alpes et les Pyrénées, on observe un verdissement généralisé. Donc, c'est-à-dire que la végétation se développe. Hein. Il y a des zones qui étaient autrefois des éboulis qui maintenant deviennent des pelouses. Et donc, ce verdissement, en fait, si on le trace en fonction de la date de déneigement, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus intense dans les zones qui se déneigent plus tardivement. Donc ça, c'est un changement de NDVI. Donc le NDVI, c'est un indice de végétation qu'on observe également par satellite. Et donc c'est tout à fait cohérent avec le modèle que je viens de vous présenter. Les zones qui se déneigent plus tardivement, en fait, ont tendance à avoir une végétation qui se développe bien plus que les autres. Donc voilà, donc en fait, le modèle théorique explique bien en fait, ces observations satellites qu'on a pu faire sur une trentaine d'années. Voilà, donc je vais maintenant passer à mes conclusions. Donc, j'essaye de résumer un peu ce que je vous ai dit. Donc, les satellites, tout d'abord, nous ont appris deux choses. Que la neige disparaît de plus en plus tôt dans nos montagnes. Donc ça, c'est avec une variabilité, mais néanmoins, c'est quand même généralisé dans les Alpes et les Pyrénées. Je vous rappelle, le chiffre clé, c'est environ 5 jours par décennie. Voilà. Et cette fonte un peu plus précoce, elle entraîne en fait une accélération du verdissement, donc une accélération du développement de la végétation dans les zones de montagne où ce déneigement se produit de façon de plus en plus précoce. Alors, par contre, j'aimerais aussi dire que les satellites ne permettent pas de tout dire non plus. Il y a plein de choses, plein de questions pour lesquelles les satellites ne nous apportent pas de réponse. Par exemple, on n'est pas capable de savoir si la masse de neige, donc là, je ne parle pas de durée d'enneigement, je parle vraiment de masse de neige, la quantité d'eau qu'il y a dans les montagnes, comment elle a évolué à partir des données satellites. Et les satellites ne sont pas capables de donner des informations là-dessus sur des périodes de temps assez longues. Donc, pour cela, en fait, il faut faire appel à d'autres approches comme des modèles et des observations in situ. On peut également utiliser des satellites beaucoup plus récents, mais on aura des informations sur la masse de neige qui seront seulement liées aux 10 ou 15 dernières années. Enfin, ce que ne nous disent pas les satellites, évidemment, c'est ce qui va se passer à l'avenir. Et donc, pour ça, en fait, on a besoin de développer des modèles, développer des connaissances et de s'appuyer sur les projections climatiques pour ensuite essayer d'anticiper un peu l'impact du changement climatique. Et donc, c'est cette évolution de la température que je vous ai montrée, quel impact elle aura en fait sur les écosystèmes de montagne. On a besoin de développer des connaissances et les satellites nous servent à calibrer, à comprendre, mais ne permettent pas de faire des projections, bien évidemment. Et donc, juste pour terminer, donc les travaux que je vous ai présentés sont issus de deux publications que j'ai citées ici et ont été financés dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Voilà, merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.